Bonjour à tous, vous écoutez Radio Picasso. Radio Picasso, c'est la web radio du LPO Aragon Picasso à Givor. Nous sommes les élèves de seconde SN, Naïm, Moad et Matteo. Nous recevons aujourd'hui Madame Vernus, proviseure adjointe en charge de la filière professionnelle afin de mieux la connaître et d'en savoir un peu plus sur sa fonction. Madame Vernus, bonjour.
Bonjour à tous.
Où avez-vous grandi ?
Alors, j'ai passé le début de mon enfance à Antony, dans les Hauts-de-Seine, en banlieue parisienne, jusqu'à l'âge de mes 11 ans. Et puis, ensuite, je suis partie en Ardèche, le Grand Sceau, dans le calme, au nord de Valence, jusqu'à ma majorité. Jusqu'à mon bac, en fait.
Quel genre d'élève étiez-vous au collège et au lycée ?
Alors, est-ce que ça se raconte, ça ? Au départ, assez sérieuse. Et puis, alors, j'ai toujours été assez scolaire. J'ai bien l'école. Par contre, j'étais plutôt bavarde, plutôt un peu dissidente, un peu électron libre quand même. Mais j'aimais bien travailler en cours. Et puis, j'aimais bien les projets, en fait. J'aimais bien faire plein de choses, en fait, au lycée. Du sport, des trucs associatifs, humanitaires. Avec ça bouge, quoi.
Dans quelle matière étiez-vous le moins à l'aise ?
En physique. Alors, au collège, au début de mon collège, c'était en sport. C'était une vraie galère. J'arrivais pas à courir le 100 mètres. Et donc, j'appréhendais les séances de sport. Puis petit à petit, ça a été mieux grâce à mes profs. Je dois bien le reconnaître. Et puis après, au lycée, c'était la physique et notamment la mécanique. J'y comprenais rien. Et l'électricité, j'ai mis du temps.
Et vous êtes toujours pas sport aujourd'hui ?
Ah si, j'adore ça, j'en fais tout le temps. Depuis que mes profs m'ont fait basculer, en fait, je suis devenue une fan et ça fait partie de ma vie tout le temps, quoi. Ça m'a plus quittée.
Quelle filière avez-vous choisi au lycée ?
Alors, au lycée, j'étais en bac S, donc maths physique, mais en fait, j'adorais l'histoire géo.
Ok. Donc, en quoi ça consistait un petit peu le bac
C'est l'équivalent. En fait, moi, j'ai passé un bac qui s'appelait le bac C à l'époque, je suis pas toute jeune, et en fait, mais c'est l'équivalent du bac S, donc c'était maths physique. On avait pas de bio, et puis après, on avait français, histoire géo, philo, langue.
Et ça a été difficile ?
J'aimais bien, donc ça allait. Non, ça a été à peu près quoi. J'étais pas ultra brillante, mais ça s'est passé quoi correctement. J'ai pas des disciplines où je suis très très forte, mais je suis assez polyvalente. Donc du coup, comme je m'en sors un peu en maths, en histoire géo, en langue, en sport, du coup j'y arrivais avec ça, avec le fait que j'étais pas forcément très forte quelque part, mais par contre, je savais faire un peu de tout.
Et pourquoi choisir un bac S alors que vous n'aimiez pas la physique ?
C'est ça, vous êtes d'accord, hein ? Et surtout que j'adore l'histoire géo et surtout j'adore la littérature. Parce que on m'a appris que à l'époque, ça a été vrai encore longtemps, que S, ça ouvre toutes les portes en fait. Vous pouvez tout faire avec. Donc quand vous en sortiez pas trop mal à l'école et que vous vouliez poursuivre vos études, vous y S et avec ça, vous rentriez partout. Voilà. Mais ce sera à refaire, c'est pas sûr que ce soit ça que je ferai.
Ok. Quelle étude avez-vous fait après le bac ?
Alors après le bac, j'ai fait une prépa commerce et après j'ai fait une école de commerce. Donc ça a vraiment rien à voir non plus. Et c'était pareil, c'était parce que j'aimais beaucoup l'histoire géo et qu'on m'avait dit que c'était là où il y en avait beaucoup. Donc je suis allée là-bas.
Et il y avait plus ou moins de matière
Alors il y avait un peu de maths. Il y avait beaucoup d'histoire géo et d'histoire géo-économique, et ça, j'adore. Il y avait aussi du français, de la philo et des langues. Donc, c'était finalement plutôt une formation que j'aimais bien. Après, c'est une classe prépa, donc c'est hyper élitiste. Les gens, ils sont pas trop solidaires et ils font un peu des croche-pattes, et ça, j'ai pas aimé du tout, quoi. Et c'est bataille, quoi.
Ah, d'accord. Et pourquoi plutôt solidaire?
Parce qu'ils se disent que comme il n'y a pas beaucoup de place au concours, c'est les meilleurs qui iront, donc autant marcher sur la tête des voisins. En tout cas, à l'époque, c'était ça, et là où j'étais, c'était ça. Et donc, j'aimais pas cette ambiance-là, quoi.
Quel métier avez-vous fait après vos études ?
Alors, après les études, je suis rentrée dans la grande distribution, dans le groupe Casino, et j'ai fait du marketing. Donc j'ai fait du marketing pendant une dizaine d'années, soit du marketing produit, ce qu'on appelle ça, c'est-à-dire j'ai développé des produits à marque Casino, soit j'ai travaillé ensuite sur tout ce qui était études et pour des consommateurs, pour faire les rayons, savoir ce qui marchait, ce qui marchait pas, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils avaient envie. Donc du marketing pendant une dizaine d'années.
Et en quoi consistait un petit peu votre votre poste à ce moment-là?
Alors, soit j'ai travaillé sur les produits à marque Casino, c'est-à-dire que là où il y en avait, ce qu'on appelle les produits à marque distributeur, donc là, où, dans des secteurs où il n'y en avait pas. Par exemple, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de jouets à marque Casino, donc j'ai développé les jouets à marque Casino. Je travaillais sur le non-alimentaire à l'époque.
D'accord.
Donc ça, sur un certain nombre de rayons. Et puis après, je suis allée travailler pour le siège plus général. Et donc, c'était de savoir comment on implantait les produits dans les rayons, ou si on voulait lancer des produits, est-ce qu'ils allaient marcher, ou des choses comme ça. Donc, tout ce qui était études.
Et qu'est-ce que vous aimiez bien dans ce métier?
Alors, j'aimais bien dans ce métier parce que c'était un peu stratégique. Donc, fallait essayer de regarder ce que les gens, ils aimaient et ils n'aimaient pas. Et il fallait essayer de projeter le futur. Et ça, j'adorais passer du temps avec, essayer de travailler sur ce qui était, sur les stratégies de marché, en fait. Et ça me plaisait bien. Je rencontrais plein de personnes. Je voyais plein de types de produits différents parce que je travaillais avec les différents services. Et donc, c'était un peu touche à tout, quoi. Ça, j'adorais ça.
Et qu'est-ce que vous aimiez moins, du coup?
Alors, ce que j'aimais pas, c'était la raison d'être de mon métier qui faisait que c'était pour que les gens, ils achètent plus, quelque part. Et je trouvais que ça avait pas beaucoup de sens. C'était ça. Je trouvais que ça avait pas de sens, en fait, de consacrer mon énergie au travail et faire en sorte que, simplement, on développe des ventes et qu'il y ait des gens qui gagnent plus d'argent. Voilà. Et je trouvais que ça me servait pas à me motiver pour me lever le matin.
Pourquoi avez-vous décidé de passer du secteur privé au secteur public?
Parce que justement, je voulais donner du sens à mon travail et je me suis dit, c'est pas possible que je travaille simplement pour la loi du marché. Ça m'allait pas. Donc, je voulais arrêter de travailler avec des produits, travailler avec des choses comme ça, et je voulais travailler avec des gens, avec des vraies personnes et donner du sens. Et là où je trouvais que, pour moi, le sens était le plus important, c'était la transmission et l'éducation.
Et vous l'avez vécu comment, le fait de passer du privé au public?
Ça a été un vrai soulagement. En fait, quand je suis arrivée dans l'éducation nationale, j'ai eu l'impression d'être à ma place, c'est-à-dire travailler dans une institution qui me ressemblait, c'est-à-dire d'être la même dans la vie que je l'étais au travail, ce qui n'était pas le cas quand j'étais chez Casino. J'avais l'impression d'être deux personnes différentes. Et là, quand je suis arrivée, je me suis dit, c'est là où j'ai envie d'être, et je savais que c'est là où je serai jusqu'à la fin de ma carrière. Enfin, peut-être pour différents métiers, mais en tout cas, je savais que cette institution, elle a des valeurs qui sont les miennes et que je pouvais rester là sans vouer mon âme au diable, quoi.
Quelles étaient les conditions pour devenir institutrice?
Alors, pour devenir, on appelait ça professeur des écoles après, parce que instituteur, ça n'existait plus. Et pour être professeur des écoles, il fallait avoir un bac plus 5 et puis après passer un concours. Donc je l'avais, en ayant mon diplôme d'école de commerce, et après j'ai passé le concours de recrutement des professeurs des écoles.
Et vous avez eu assez l'impression d'être assez formée à ce moment-là ou...
Alors pour commencer, c'était pas mal, parce que moi je venais d'un secteur tellement différent que j'avais beaucoup de choses à découvrir, donc c'était bien. Après, j'ai trouvé que la formation était courte. Parce qu'on est rapidement plongé dans une classe et je pense qu'on n'est pas prêt à, on n'a pas vu toutes les facettes de ce métier-là, parce que c'est un métier qui regroupe beaucoup beaucoup de choses. Et puis après, ce qui m'a manqué peut-être, c'était d'être plus formé tout le temps, en fait, parce qu'on a besoin de formation tout le temps pour avancer et sur plein de sujets, et parce que les élèves bougent, parce que les programmes bougent et qu'on a besoin d'avancer. Et là, je trouve que ça manque. Mais ça m'a manqué pour moi, et j'ai l'impression aussi qu'il n'y ait pas suffisamment de formation aussi pour les enseignants, par exemple, qui sont dans l'établissement, si je peux le dire.
Avez-vous eu d'autres fonctions avant de devenir personnel de direction?
Alors, quand j'étais professeur des écoles, après j'ai pris une direction d'école. C'est une mission, en fait, plutôt, qui nous est confiée. Donc j'ai pris la direction d'une école d'éducation prioritaire, et après pendant 4 ans, j'ai été coordonnatrice de réseau d'éducation prioritaire. C'est-à-dire, j'ai travaillé avec un collège et des écoles pour essayer de faire travailler ensemble un territoire, un bout de territoire, pour travailler sur des projets sur les élèves plus fragiles. Et donc, c'est aussi ce qui m'a permis de mieux travailler que le second degré, de découvrir ce que c'était qu'un collège, et ça m'a donné envie justement de travailler davantage avec le second degré.
Plusieurs écoles.
Alors, j'ai fait deux écoles, uniquement, pas plus. Mais par contre, après, j'ai travaillé sur un territoire donc j'étais toujours enseignante. J'ai toujours enseigné jusqu'à 2 ans. Donc, mais de moins longtemps. Et à côté de ça, je faisais de la gestion de projet avec un collège et plusieurs écoles.
Est-ce que c'était différent pour vous d'enseigner dans un collège?
Alors, j'ai pas tout à fait enseigné. Alors, j'ai pu faire des séances, mais j'étais pas enseignante à part entière, puisque je m'occupais surtout de projets. Alors après, j'ai pu faire quelques séances. Alors, c'est très, très différent, en fait, hein, le second degré, le premier degré. D'abord, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enseignants différents, hein, sur une même classe. Vous l'avez vécu en tant qu'élève. Alors que, ben, moi, dans mon école, mes élèves, je les connaissais bien, hein, je les avais 24 heures par semaine, et donc, c'était les mêmes, et j'avais que 25 élèves pour toute l'année, quoi. Alors que là, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de monde. On se retrouve dans un établissement où on connaît pas tout le monde. Alors ça, pour moi, c'est un vrai choc, parce que, en venant de primaire, je connaissais tous les élèves et tous les enseignants. Et puis parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Vous avez des vies scolaires, vous avez des comptables, vous avez de la cantine, vous avez en fait, vous avez des agents, vous avez des surveillants, et il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et du coup, il y a des vrais travails d'équipe. On était moins nombreux quand j'étais dans le primaire, on était moins nombreux, et du coup, on faisait un peu tout. Donc ça avait ses avantages de tout faire et de bien connaître, mais on est un peu plus seul, quoi. Et puis surtout, ce qui change, c'est l'âge des élèves, parce que la relation avec des élèves au primaire, c'est pas la relation qu'on peut avoir avec des ados. C'est pas les mêmes problèmes, c'est pas les mêmes questions et c'est pas les mêmes solutions non plus. Donc j'avais vraiment l'impression à la fois d'être dans le même monde, mais d'une manière complètement différente en fait. La même planète, mais dans un autre pays, quoi.
Et vous l'avez bien vécu, le fait d'être avec une bonne relation avec les élèves?
Ouais, en fait, ça m'a donné envie d'être avec des plus grands. J'ai adoré être avec des petits pendant un moment. Et puis j'ai eu envie de passer avec des plus grands, des collégiens et puis des lycéens. Parce que la relation est différente et que c'est vraiment agréable de découvrir autre chose, quoi.
Et vous étiez enseignante en troisième, en quatrième?
J'ai pas enseigné, j'ai fait des projets avec eux. En fait, c'est compliqué, hein. En fait, j'étais encore enfin professeur des écoles. J'enseignais en primaire, mais je coordonnais des projets avec un collège et des écoles. Donc j'ai pu faire des séances dans des classes de collège sur des points particuliers, mais avec des enseignants.
Et quel genre de projet?
Alors, j'ai travaillé sur des projets culturels, des projets de citoyenneté. On a travaillé des projets en histoire. Enfin, voilà, sur différentes choses. Un projet musical aussi. Donc voilà, des choses très différentes. Et puis ça change au fil des ans. Et après, on avait aussi des projets très scolaires, par exemple, qui étaient améliorer la fluidité de lecture. Hein. On avait amélioré les compétences en mathématiques. C'était pas seulement des projets de sortie ou des choses communes, on avait aussi des fondamentaux.
Nous allons faire une pause dans cette émission en musique avec un titre de Yann Tiersen. Madame Vernus, pourquoi avez-vous choisi cet artiste?
Alors, j'adore Tiersen. Tiersen, c'est quelqu'un qui m'apaise parce que voilà, il a quelques titres avec des paroles, avec des chansons, mais sinon il joue du piano. C'est quelqu'un qui, si vous regardez la vidéo de ce titre, il a son piano face à la mer et en fait c'est apaisant. Donc c'est une musique que j'ai souvent, Tiersen, pour me faire du bien.
Et vous l'écoutiez plus jeune?
Alors Tiersen, j'ai connu assez jeune, mais quand j'avais votre âge, c'était pas Tiersen que j'écoutais. J'écoutais des choses plus peps, on va dire. Thank you.
Nous sommes maintenant avec Martial et Saber et toujours en compagnie de Madame Vernus, proviseure adjointe du LPO Aragon Picasso. Quand avez-vous décidé de devenir personnel de direction ?
Alors en fait, j'ai commencé à avoir l'idée quand je suis partie travailler avec le second degré, avec le collège, quand j'étais cordeau d'éducation prioritaire, justement pour voir si j'aimais bien le second degré. Et donc ça a mûri petit à petit. Et puis je m'étais engagée pour une mission de 3 ou 4 ans. Donc au bout de 3 ans, j'ai préparé le concours pour changer à ce moment-là.
Et le concours, il a été dur ou...
C'est un concours, donc ouais, c'est assez dur. C'est assez dur, il y a du monde. Ceux qui le présentent en général, c'est des gens qui ont envie et qui ont déjà un peu de bouteille dans l'éducation nationale. Et puis, c'est pas tant qu'il est très dur, disons qu'il demande beaucoup de travail. Voilà, mais si on travaille, on y arrive. Voilà.
Normalement,
c'est souvent le cas. Alors, ça marche pas forcément du premier coup, mais voilà, ouais.
Quelle matière il y avait au concours ?
Alors le concours en fait c'est pas des disciplines, on a juste un dossier sur un établissement. On nous présente un lycée, où est-ce qu'il est, qui est-ce qui travaille dedans. Et puis en fait on doit être comme si on était le chef et on doit organiser une réunion ou écrire un courrier, etc. Donc en fait derrière on a une vingtaine ou une trentaine de pages de documents, des articles, etc. Et on doit faire un diagnostic. Et puis rendre 2 écrits professionnels qui sont en général assez synthétiques en fait. Voilà. Donc, mais c'est pas des disciplines en tant que telles. C'est vraiment sur le système éducatif. Donc on peut avoir un collège d'éducation prioritaire, un lycée rural, on peut avoir un lycée de centre-ville et voilà, avec des questions à résoudre par rapport au contexte de cet établissement-là. Okay. Voilà, ça c'est 4 heures d'écrit, pardon. Après on a admissible. J'ai oublié qu'il y avait quand même un oral aussi derrière en fait. Et après, il faut présenter voilà, CV, lettre de motivation, un rapport d'activité sur ce qu'on a fait. Et puis, on a un oral où on a un jury avec des grands pontes d'éducation nationale. Ils sont 3 en face de nous. On a 1 quart d'heure de présentation. Donc, faut vraiment être réglo sur 15 minutes. Et après, on a 3 quarts d'heure où ils nous mitraillent de questions avec parfois la bienveillance. Souvent. Et puis voilà, on a 3 quarts d'heure où on doit répondre et après on a une note et puis après on est classé et puis voilà.
C'était quoi votre mention ?
La mention, il n'y a pas de mention, il y a de classement, mais il n'y a pas de mention. Alors le truc c'est que j'ai été assez bien classée et donc j'ai surtout pu choisir l'établissement que je voulais dans la liste des établissements. Après on a des établissements où il y a de la place et en fait on classe nos vœux. Et surtout, mon vœu 1, eh ben, c'était le lycée de Givors. Et ça m'a permis d'avoir le lycée de Givors parce que c'est celui-ci que je voulais. Et plus que le classement, de pouvoir choisir, c'est ce qui compte.
Et est-ce que vous avez bien été formé pour devenir proviseur ?
Alors, on est formé surtout sur le terrain. Donc, on arrive dans un établissement et en fait, on est formé au fur et à mesure du temps. Et on est surtout bien accompagné parce qu'il y a d'autres personnes dans l'établissement. Il y a un chef, hein, il y a Monsieur Jost. Et puis l'intérêt d'un gros lycée, c'est qu'aussi il y a une deuxième adjointe. Donc je travaille beaucoup avec Madame Boileau. Puis après, on est accompagné dans le temps sur beaucoup de choses. C'est un tout petit peu problématique en ce moment parce que la formation est un peu en arrêt avec le Covid. Voilà. Donc c'est ça qui est un petit peu bancal, mais sinon, on apprend au fur et à mesure les choses. Et puis on a un peu d'indulgence des enseignants quand on sait pas répondre. Donc ça va. Ouais, la chance.
Ok. Mais proviseur adjointe, c'est quoi plus précisément ?
Ce que je fais ?
Ouais.
Alors, on s'occupe de essentiellement ce qui est la partie organisation d'un établissement. Hein. Donc, ça peut être des examens, ça peut être la SSR, hein, comme certains ont passé ce matin, les emplois du temps. Et puis, après, il va y avoir une partie... par exemple, on va organiser la rentrée. Là, on peut réfléchir sur les évaluations qui va se passer. Là, on va retravailler sur le projet d'établissement et savoir ce qu'on veut faire en termes de vie scolaire, d'évaluation, d'accompagnement des élèves, etc. Donc, ce sont tous ces aspects-là. Il y a aussi les aspects de soins, travailler avec les infirmières. Voilà. Puis, on a aussi toute la partie vie scolaire quand on a quelques élèves qui ont besoin de nous sur ces points-là.
Et quelles ont été vos premières impressions en arrivant au lycée ?
Alors... au niveau des personnes, alors je vais pas commencer au niveau des personnes, je vais commencer par les locaux. Ça m'a un peu surpris parce que pour moi, un lycée, il y a un grand parc toujours, et donc j'étais un peu surpris qu'il n'y ait pas d'extérieur. Après, j'ai trouvé que c'était un endroit où je sentais les personnes posées, agréables. Je trouvais que l'ambiance, elle était agréable à vivre. Et puis, et après, j'ai rencontré les équipes qui étaient là. Et puis surtout à la rentrée, j'ai rencontré les enseignants parce que je suis venue en juillet. Mais après, j'ai rencontré les enseignants. Et alors, c'est pas pour leur passer de la pommade parce qu'ils écoutent la radio, mais j'ai été bien accueillie et je trouve que c'est une équipe où il y a vraiment ils sont contents de travailler ensemble. Il y a du collectif et j'adore ça. Donc j'ai un vrai plaisir. Voilà, c'était ma première, ma première impression et ça s'est toujours vérifié.
Et vous avez passé, c'est votre première année, votre deuxième
ici. Ma deuxième année ici. Ouais. Okay. C'est juste ma deuxième année. Et la première, elle a été un peu amputée avec le Covid. Hein. Donc on était un peu à la maison. Donc vous me manquez. Après, j'avais des contacts tout le temps, hein, bien sûr, on télétravaillait, mais voilà, il me manque encore des choses à vivre. Donc j'ai envie de rester.
Et comment trouvez-vous l'ambiance au sein du LPO ?
Alors moi j'aime bien, je trouve qu'il y a des je trouve que c'est assez je trouve qu'il y a une c'est assez serein. Des fois on pourrait avoir peur parce que la ville de Givors a pas forcément bonne réputation. Et donc on pourrait se demander ce qui se passe dans le lycée de Givors et du coup je trouve que le lycée de Givors c'est un endroit qui est agréable à vivre, pardon. Et donc j'arrive tous les matins contente de venir quoi. Je trouve que voilà, les gens sourient, disent bonjour, les agents sont sympas, les élèves sont polis et voilà, j'ai toujours du plaisir à arriver le matin quoi, vraiment, chaque matin quoi, c'est chouette.
Bon, je sais que vous allez utiliser votre joker, mais pourquoi le Givors, il a une réputation
Des fois la ville, elle a pas forcément une bonne réputation. Parce que c'est comme ça, c'était une ancienne ville franche et je pense que il y en a qui pensent que il y a peut-être un peu de violence ou des choses comme ça. Et en fait, il fait bon vivre dans ce lycée et je pense qu'il faut le dire haut et fort et puis justement clamer tout ce qui va bien.
C'est un cliché quoi, c'est
oui.
Polémique qui.
Donc il faut absolument qu'on continue à prendre des haut-parleurs et à crier que qu'il fait bon vivre ici quoi.
Qu'est-ce qui différencie les différentes filières de notre lycée pro ?
C'est-à-dire ? Différencie à quel niveau ? À part qu'ils apprennent pas les mêmes choses, mais sinon, on a quand même que des filières industrielles, donc elles ont plutôt des points communs, je trouve, de ce point de vue-là. Par exemple, on n'a pas des filières industrielles et commerciales. Après, elles sont pas sur les mêmes secteurs, mais il y a quand même une certaine cohérence. Je regrette juste que ça manque de filles. Faudrait arriver à ouvrir un peu les filières industrielles aux minettes, quoi, parce que je pense que c'est bien qu'il y ait des garçons et des filles hein, dans chacune des filières.
Mais du coup, c'est quelle filière qui a été le plus demandée LPO ?
Alors, c'est souvent les systèmes numériques justement qui sont demandés. Et non, mais il y a peut-être c'est peut-être la carrosserie qui est le moins demandée. Et sur les autres filières, en fait, on a toujours des élèves qui sont sur liste d'attente et qu'on prend pas. On a plus, de toute façon, plus d'élèves qui veulent venir qu'on a de place. Et ça, c'est vrai partout. Voilà. Après, la liste d'attente, elle est plus ou moins grande, mais on a toujours beaucoup de demandes. Et ce qui est bien, c'est qu'on puisse prendre, en fait, les élèves qui ont envie de venir, parce que c'est quand même, quand on est là où on a envie d'être, on réussit mieux en général.
En général. J'ai cru que c'était la carrosserie le plus demandé, mais c'est le système numérique.
Oui, c'est système. Enfin, après toutes les filières sont très demandées. On a plus de demandes que de places. Donc à chaque fois, on est obligé de refuser des élèves. Mais en carrosserie, non, c'est là, on a moins de demandes. Et du reste, on a moins de places. On a 10 places alors qu'en scène, en seconde, on a 30 places. On a 30 places en maintenance des véhicules et on a 15 dans les autres filières, Mickey Melec.
Ok, mais un jour, la filière ICSP. Est-ce qu'elle pourrait exister dans ce lycée ?
Alors on pourrait ouvrir et avoir une volonté de travailler sur ce type de filière, mais on a un autre établissement pas loin qui l'a.
Casanova,
et du coup ce serait un peu idiot qu'on ait la même filière. Il voudrait mieux des fois qu'on, parce que du coup ça nécessiterait par exemple que des enseignants ils puissent aller sur deux établissements, ce qui est pas toujours simple pour s'investir dans les équipes ou des choses comme ça. Et il serait plus malin qu'on ait quand même des spécialités chacun. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas qu'on ouvre des filières un peu différentes ici. Nous, on travaille plutôt sur l'ouverture du... par exemple, on aimerait bien faire un BTS pour que les SEN puissent poursuivre en BTS ici. Donc on est plutôt sur une idée de continuité plutôt que d'ouvrir des différentes d'autres filières. Pour l'instant, c'est la réflexion.
Ok.
Quel regard portez-vous sur la filière SEN?
Alors comme toutes les filières industrielles que je les regarde avec admiration parce que alors moi sur mon cursus vous avez compris je suis pas quelqu'un de manuel et donc dès qu'il y a des élèves qui savent réfléchir, utiliser leurs mains et qui ont les doigts en or, je suis admirative. Donc c'est pareil hein, je vais vous voir l'autre jour, je regardais des élèves qui étaient avec leur fil qui connectait, etc. Et moi, au-delà de changer une ampoule, je sais pas faire. Ou quand je regarde les élèves qui sont devant les voitures et qui font des choses. Je suis admirative du travail qu'ils savent faire. Donc je porte un regard toujours bienveillant et avec des yeux qui pétillent quand je vous regarde faire.
Ok, j'ai pas de questions sur ça.
Est-ce que ça vous suffit de savoir que j'ai les yeux qui pétillent quand je regarde les élèves de votre filière? C'est chouette.
Que préférez-vous dans votre métier?
Alors moi, ce que j'adore, c'est être dans un établissement, parce qu'un établissement, c'est hyper vivant, il se passe plein de choses tous les jours. C'est-à-dire tous les matins, j'arrive avec une liste de choses que je dois faire, et en général, à la fin de la journée, j'y suis pas arrivée. Ma liste est juste un peu plus longue, mais par contre, il s'est passé plein de choses. Donc dans un établissement, on voit des élèves, on voit des profs, on voit des agents, on voit des parents, on voit plein de monde, moi, c'est ça que j'aime. J'aimerais pas être dans un bureau où il y a personne qui passe, j'adore parce que je trouve que c'est là où il y a de la vie. Et c'est là où il y a les jeunes et c'est là où la vie elle se passe. Donc j'adore ça quoi.
Mais du coup, comme vous avez dit, quand vous rentrez au lycée, vous avez un objectif. Si vous finissez vos objectifs avant la fin de journée, vous en reprogrammez ou
Alors ça m'arrive jamais parce qu'en fait on a des choses court terme, enfin des choses qu'on doit faire vite, des choses qu'on doit faire à moyen terme et des choses qu'on a du temps pour le faire. Et donc, si on a fini le court terme et les urgences, on a du temps pour se poser sur des choses qui demandent plus de temps ou pour lesquelles on a un peu plus de temps à faire. Donc en fait, c'est un métier qu'on n'a jamais fini de faire.
Ça vous rassure en fin de journée de savoir que vous avez fini toute votre liste à faire?
Ça m'arrive jamais d'avoir barré toute ma liste, mais sans rire, ça m'arrive jamais parce qu'on a des choses. Voilà, on a des choses qui sont. Mais quand j'en ai barré quelques-uns, déjà je suis contente. Ouais, je suis contente. Déjà d'en avoir barré et d'en avoir pas trop rajouté. Et alors si j'en ai barré plus que j'en ai rajouté, alors là, c'est jour de fête.
Et vous en rajoutez?
Bah oui, il se passe toujours des choses. Il y a toujours des demandes, toujours des choses à adapter, des circulaires qui tombent, je sais pas, par exemple du ministère, des enseignants qui demandent un truc, des élèves, autre chose aussi. Et donc il y a toujours des choses à rajouter. Mais c'est, je pense que c'est pour ça que je fais ce métier. C'est parce qu'en fait, il se passe toujours beaucoup beaucoup de choses, quoi. Et c'est passionnant et c'est très divers.
Quel regard avez-vous sur la mentalité des jeunes d'aujourd'hui?
Alors, les jeunes d'aujourd'hui, comment dire? Pour moi, ça veut pas dire grand-chose parce que les jeunes, ils sont tous différents. Alors, forcément, les jeunes, ils sont différents de ce que j'étais quand j'étais jeune, mais n'importe qui pourra vous dire ça, quoi. Donc voilà, je trouve que la jeunesse, elle est belle. Il y a des choses qui me surprennent. Il y a des choses parce que vous avez forcément un monde autour qui est différent. Par exemple, les réseaux sociaux, les portables, etc. Donc vous utilisez des choses qui sont différentes. Donc c'est marrant de vous voir faire avec ça. Je trouve que de toute façon, c'est là où il y a l'énergie et c'est là où il y a le futur. Donc moi, j'adore la jeunesse. Sinon, je serais pas dans un établissement non plus. Voilà, je trouve que vous avez pas toujours un contexte de vie facile. C'est-à-dire que en ce moment, j'ai un peu de peine quand même pour les élèves. On parle souvent aussi des personnes âgées avec le Covid. Je pense qu'il y a deux populations qui souffrent le plus. Pour moi, enfin, qui souffre, pour lequel c'est le plus dur, c'est les personnes âgées et c'est la jeunesse, parce que vous voir au lycée avec des masques, c'est pas rigolo. Je me dis que moi, j'étais vachement mieux sans quand j'avais votre âge. Et pareil pour les étudiants, quoi. Et puis, il manque la soirée, il manque une vie sociale, même si vous arrivez à la faire, vous devez quand même l'amputer par rapport à ce que vous devriez faire. Il manque le sport, il manque plein de choses. Et j'espère vite qu'on va pouvoir se sortir de ça. Vous allez enlever vos masques et continuer, quoi. La jeunesse, elle est belle et elle me donne, ouais. Ça donne de l'espoir, quoi. C'est vous. Moi, j'adore.
Et qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans le lycée?
Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? On n'est pas loin de 2000. Et en fait, on arrive à travailler ensemble et à bien s'entendre. Et rien que ça, c'est génial, quoi. Et on s'est pas choisi. Les élèves, ils viennent ici comme ça. Les enseignants, ils viennent ici comme ça. Et on est nommé, en fait. Donc, on est affecté ou on est nommé. Et puis, tout d'un coup, on se retrouve avec 2000 personnes qui sont pas choisies, qui doivent passer énormément d'heures et de journées tous ensemble. Et en fait, ça se fait. Et on travaille ensemble, on mange ensemble, on prend aussi, on discute ensemble. Et c'est quand même génial, ça, quoi.
Bah, du coup, plus de 2000 personnes, mais avec le coronavirus et les généraux. C'est pas maintenant la moitié ou...
Alors en général, ils viennent à moins nombreux en ce moment, effectivement. Donc ils viennent, au lieu de venir 1200, ils sont 600. Donc on a aussi un peu moins d'adultes qui sont là. Donc en ce moment, oui, c'est vrai, on est plutôt autour de 1000 personnes. On est à peu près une grosse moitié, parce qu'en fait, il y a quand même des personnes qui sont là toujours de la même manière. Mais bon, ça fait quand même du monde, n'empêche que 1000 ou 1200 personnes qui arrivent à bien s'entendre et à bosser ensemble, ça reste toujours un beau... Une belle idée.
Okay.
Ça fait pitié les yeux aussi, comme quand je regarde les filières.
Quelle relation entretenez-vous avec les enseignants ?
Eh ben bonne, j'espère qu'ils vont pas contredire. voilà, pour moi c'est les collaborateurs du quotidien, quoi. C'est avec eux qu'on travaille au quotidien, et la relation elle est bonne, elle est posée. J'espère qu'on peut se dire les choses telles qu'on les pense, et puis on a les mêmes objectifs. Donc voilà, pour moi c'est mes premiers collègues, et c'est important. C'est important, ça compte en fait.
Mais du coup, il y a déjà eu des désaccords sur des objectifs où une personne voulait faire cet objectif et l'autre voulait faire le contraire, des choses comme ça.
Bah, on peut débattre, hein, sur des choses où on n'est pas toujours d'accord, où on n'a pas les mêmes visions, et on en discute. Heureusement qu'on n'a pas tous la même vision des choses, parce que sinon ce serait terriblement ennuyeux. Donc c'est bien, mais on nous demande pas de penser pareil. On nous demande à la fin de trouver un terrain commun de travail, et ça se fait parce que l'objectif, il reste le premier, c'est de faire réussir nos élèves, quoi. Et là-dessus, il n'y a pas de doute, y compris vis-à-vis des enseignants du lycée, quoi. Ça reste le premier objectif.
Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour le LPO ?
Améliorer, alors ça c'est compliqué. Moi j'en reviens quand même à la première chose que je disais tout à l'heure, c'est le cadre de travail. Sauf qu'il y a des choses, je trouve, à améliorer de ce point de vue-là, sur les extérieurs, sur les espaces de travail, hein, sur moderniser un peu les espaces. Ça c'est certainement la première chose que je ferais.
C'est mon point de vue, mais moi je dirais plus, pas les espaces, mais plus les espaces pour travailler, parce que dans la récré, bah, y a pas assez de tables. J'essaye de travailler, mais plutôt beaucoup de personnes dans les tables que je peux pas dégager, on va dire comme ça.
Non, mais c'est je suis complètement d'accord. En fait, les espaces, il y a beaucoup de choses. Il y a les espaces qu'on faisait dans les classes, les accès. Alors il y a des choses qui vont être faites, hein, au niveau du lycée, on va pouvoir bouger, mais je suis d'accord. Mais ça vaut aussi bien de libérer des espaces que de savoir comment on les organise, qu'ils soient un peu plus flexibles, que vous puissiez bouger. Qu'il y ait des systèmes, on vous permette aussi d'être plus autonome, c'est-à-dire que il faut, voilà, vous approprier aussi les lieux, mais ça vaut pour vous comme ça vaut aussi pour les enseignants. Je trouve par exemple que la salle des profs, elle est petite, il y a un peu tout à la fois, hein. C'est aussi un endroit convivial, mais un endroit où on travaille, un endroit où on mange, et je pense qu'il faudrait un peu plus de place. Et voilà, je trouve qu'il y a un travail à faire là-dessus de réflexion. Et
aussi les projets d'amélioration en vue.
Au niveau des espaces, oui. Alors il y a eu un travail sur la trième, vous avez pu le voir, mais en fait ce qui va se passer au niveau du lycée, c'est qu'ils vont va y avoir la cantine, en fait, elle va être construite ailleurs à proximité, mais donc du coup elle va être sur les terrains normalement elle devrait être sur les terrains qui sont au-dessus. Enfin normalement, c'est pas encore complètement fini, mais en tout cas elle va sortir de l'intérieur du lycée. Donc en fait, on va récupérer tout cet espace-là, l'espace de la cantine, plus tout ce qui est la cuisine, et puis tout ce qui est stockage qui est en dessous. Et donc là, on va pouvoir récupérer des espaces, et ça va nous permettre de réfléchir à comment on réorganise les choses. Les CDI, les salles de classe, les bureaux, hein, parce que par exemple, je parlais travailler avec Madame Volo, mais en fait, elle est loin de moi, donc est-ce qu'on se rapproche, est-ce que pas, qu'est-ce qu'on fait des vies scolaires, enfin voilà, il y a tout un travail de réflexion qui va être mené, donc il pourra y avoir, et ça, c'est super de se dire qu'il va y avoir ça.
Ok, mais du coup, si vous déplacez la cantine, elle sera plus loin ou plus près de, du lycée? Et aussi, bah non, je vous laisse répondre sur cette question.
En fait, elle sera plus dans le lycée. Elle, c'est un bâtiment à côté. Donc, elle sera pas loin pour les élèves et ni pour les enseignants. Elle sera, enfin voilà, c'est comme si vous allez à un atelier, en fait. Mais du coup, à l'intérieur de, du bâtiment du lycée, on va pouvoir récupérer l'espace pour faire des choses, quoi. Et ça, c'est chouette.
La place que vous prendrez. Pour quelle, ce sera quelle salle?
Eh ben, en fait, on n'a pas encore décidé. C'est un travail que, il va falloir qu'on mène. Mais pour l'instant, il n'est pas encore fait. En fait, il faut qu'on sache quand est-ce que la, qu'on soit sûr que la cantine va être faite. Et quand est-ce qu'elle va être faite? Et puis là, on va pouvoir réfléchir aux aménagements. Alors, on commence à travailler avec la région, avec des gens, mais on n'a pas encore décidé. Puis surtout, c'est pas nous tout seuls qui allons décider. On va forcément demander aux élèves. Il va y avoir des commissions avec des élèves, avec des enseignants, enfin avec tous ceux qui viennent à l'intérieur du lycée pour que chacun donne son avis et puis qu'on essaye de faire une synthèse de ça, quoi.
Du coup, il y aura aussi les élèves qui seront.
Ah, bien sûr.
Qui seront... Mais du coup, si s'il y a presque, on va dire, il y a pas beaucoup de place pour travailler dans le hall, on pourra faire des aménagements dans la salle que vous allez bien sûr rénover. Et est-ce que on pourra mettre des tables, des trucs pour travailler, des
en fait, si
un
vous...
deuxième CD, on va dire.
Et ben en fait, si vous nous le demandez, alors nous on en a déjà conscience, mais si les élèves remontent aussi ce besoin-là et qu'il apparaît comme vraiment important, et ben c'est quelque chose qu'on va prendre en compte dans la rénovation des locaux.
Okay.
Voilà, on va forcément écouter tout le monde, quoi, tous ceux qui viennent. Mais du vrai, c'est pas nous qui allons le faire, en fait. Hein, c'est...
Quelles sont vos passions en dehors de votre métier?
Alors, ma passion. Alors, ma première passion, c'est lire. J'adore lire et ça, c'est mon quotidien. Je lis tous les jours. C'est voilà. Et depuis que je suis petite, j'adore ça depuis que je suis petite. Après, je pratique beaucoup. Enfin, je pratique régulièrement, pas beaucoup, mais du sport. Je fais la course à pied. Voilà. Et puis sinon, j'adore être avec des gens, quoi.
Et du coup, votre livre préféré?
Bon, mon livre préféré. Alors c'est compliqué quand on lit beaucoup, mais en tout cas mon livre fondateur, on va le dire comme ça, c'est L'étranger d'Albert Camus. Et je l'ai lu quand j'étais ado et en fait il m'a marqué et je lisais déjà pas mal. Et mais le jour où j'ai lu ce bouquin, j'ai compris que il fallait que je lise, ça faisait partie de ma vie, quoi. Et je trouve ce livre, je le lis au moins une fois par an, quoi. Je l'ai lu. Des dizaines de fois, ouais. Il est fabuleux, voilà.
Bah, du coup, pour vous, ce serait quel livre pour nous conseiller à tous?
Conseiller à tous, ça dépend ce que vous aimez. Alors là, c'est une question piège, parce qu'en plus, je vais vous donner une réponse, et puis 2 minutes après, je vais me dire, j'aurais dû vous demander, j'aurais dû vous proposer autre chose. En fait, ce que je vous recommanderais bien, c'est de lire les Goncourt des lycéens, les livres des Goncourt des lycéens chaque année. Donc, c'est des élèves qui donnent un prix littéraire à un livre. Et je trouve qu'à chaque fois, les lycéens, c'est des lycéens de France qui choisissent. Et à chaque fois, les livres qu'ils choisissent, ils sont excellents. Donc, moi, je regarde ce que les lycéens, ils ont choisi et c'est moi qui vais le lire. Donc, plutôt que de vous donner un titre, vous pouvez regarder chaque année qui a le Goncourt des lycéens et le lire. Et ça, vous pouvez le remonter sur plusieurs années. Les bouquins, en général, ils sont fabuleux.
L'émission touche à sa fin. Souhaitez-vous rajouter des choses, Madame Vernus?
Bon, non, vous dire simplement que j'ai passé un super moment avec les élèves. C'est vraiment bien, ces émissions de radio. J'espère que vous prenez autant de plaisir à poser des questions que moi à y répondre. Et voilà, et je vous remercie parce que c'est des bons moments, quoi. C'est vraiment des bons moments. Et puis voilà.
On vous remercie encore plus.
Merci à vous. Et puis, je vous souhaite de prendre autant de plaisir que moi être là chaque matin. Et puis, vous faire plaisir dans ce beau LPO. Et voilà, faites-vous plaisir, quoi. Faites-vous plaisir.
C'était une rencontre avec Madame Vernus, proviseure adjointe du LPO Aragon Picasso de Givors, présentée par Saber, Martial, Naïm, Moad et Matteo. À la technique, Paola. Merci Madame Vernus d'avoir accepté notre invitation. On se quitte avec Jacques Brel et la chanson Le Port d'Amsterdam que vous avez choisi, Madame Vernus. Pourquoi?
Parce que Brel et que c'était un chanteur fabuleux et j'aurais pu prendre beaucoup de titres, beaucoup de chanteurs, mais quand même, Brel, c'est un fondateur.
Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent, les rêves qui les hantent, au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment, comme des oriflammes, le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, pleins de bières et de drames, aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent, dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous montrent des dents, à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans, et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus, puis se lèvent tout riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon France. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors, le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent au dard.